Oui.
Eh bien, on va y aller.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct, Drôme Ardèche.
Bonjour Anna.
Bonjour Ardiana.
Bonjour chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de notre émission L'Europe du côté de chez nous, une version estivale pour l'émission d'aujourd'hui.
Tout à fait. Cet été, donc, on va vouloir un petit peu voyager. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit... après ce confinement, on va se concentrer sur des sujets liés au voyage, liés à la mobilité des jeunes en particulier. Et on va avoir pendant cette émission et l'émission suivante, au mois d'août, un grand nombre de témoignages de jeunes français et étrangers qui sont partis en mobilité en Europe et dans le monde. Donc, on va parler également d'Erasmus. Erasmus, ce fameux programme de la mobilité des jeunes que beaucoup connaissent, qui existe depuis 30 ans. On a fêté ses 30 ans en 2017 déjà et qui a permis à énormément de personnes de partir à l'étranger.
Très bien. Et au niveau de l'actualité européenne, on aura deux sujets essentiels aussi, puisque voilà, en cette période estivale, c'est une information très importante, la réouverture des frontières de l'Union européenne et après la présidence de l'Allemagne du Conseil européen.
En direct de Bruxelles.
Bien, commençons Anna avec le premier volet de l'actualité européenne, la réouverture des frontières. Comme on l'a dit, sujet très important, vers quel pays pourrons-nous voyager cet été ?
Alors, cet été, voilà, maintenant, de très nombreux pays ont ouvert leurs frontières. C'est possible maintenant de se déplacer, c'est une bonne nouvelle, car la période des vacances arrive. Et quand on a envie de se déplacer, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un site web qui s'est mis en place récemment et qui permet à toute personne qui veut, par exemple, mettons, partir en vacances en Suède, en Italie ou en Allemagne, d'aller voir sur ce site qui s'appelle reopen.eu. Et qui permet comme ça d'aller voir comment ça se passe pour les mesures de restriction, de sécurité dans les aéroports, dans les gares, dans les restaurants, si on veut aller voilà, dans un pays ou un autre de l'Union européenne.
Oui, et les informations de ce site sont fréquemment mises à jour. Et pour votre commodité, ils sont proposés en 24 langues. Bien, avec le deuxième sujet d'actualité, la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, quels sont les enjeux et les priorités et quelles sont les attentes vis-à-vis de cette présidence de l'Allemagne ? Une présidence qui suscite une attente sans équivalent. L'Allemagne est l'un des moteurs, est un pays moteur de la construction européenne, la plus robuste des économies de l'Union européenne, un géant économique. De l'autre côté, la chancelière allemande est applaudie pour sa très bonne gestion de la pandémie, avec près de 9 000 morts pour un pays de 80 millions d'habitants. Elle bénéficie de sondages assez favorables. 71% de l'opinion approuve sa politique et sa gestion de la crise. Donc l'Allemagne est en très bonne position pour faire des propositions fortes lors de cette présidence du Conseil de l'Union européenne.
Mais c'est quoi d'ailleurs cette présidence ? Qu'est-ce que ça signifie, la présidence du Conseil de l'Union européenne ?
Voilà, en effet, le Conseil de l'Union européenne, il réunit les ministres des États membres par domaine d'activité, agriculture, pêche, compétitivité, justice, affaires intérieures, emploi, politique sociale. Et donc, la présidence du Conseil de l'Union européenne est assurée par un État membre pendant 6 mois. Donc, l'Allemagne aura la présidence jusqu'au le 31 décembre 2020, pour après être succédée par la présidence du Portugal et de la Slovénie après. Et dans cette rotation de 6 mois, chaque président du Conseil de l'Union européenne établit ses priorités.
D'accord. Et du coup, l'Allemagne, quelles sont ses priorités politiques pour ce prochain, disons, cette présidence de 6 mois entre juillet et décembre 2020?
Voilà, moment très important, étant donné la crise économique en Europe, la crise sanitaire en même temps. Donc l'Allemagne, d'abord, elle va œuvrer dans le sens du plan de relance de 750 milliards d'euros qui a été proposé pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Après, il y a l'adoption du budget pluriannuel de l'Union européenne, avec une priorité la transition écologique et l'indépendance, la souveraineté surtout dans le domaine de la technologie, du numérique, de l'intelligence artificielle, pour que l'Europe ne soit pas uniquement un marché, mais aussi pour qu'elle ait un rôle moteur. Une autre priorité de la présidence allemande sera aussi la finalisation du Brexit et aussi les dossiers internationaux, les relations avec les États-Unis et la Chine.
D'accord, donc un gros agenda et pas mal de pain sur la planche.
Voilà, il revient à la chancelière Angela Merkel d'impulser en Europe une nouvelle dynamique permettant de relever une économie en difficulté et de construire un avenir européen plus durable.
Ben, en l'honneur de l'Allemagne, on va justement écouter un morceau qui s'appelle « Dein Freund ».
Yeah, das ist ein Lied über etwas, was ich ganz oft haben möchte. Aber immer nur von einer Person bekomme. Ich esse jeden Tag Obst. Yes, yo. Mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen, Birnen, Mandarinen und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt,
komm, iss dein Teller auf, sei ein liebes Kind.
Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied.
Obst und lecker Gemüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag.
Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland.
Ich will Schokolade, Lade.
Ja, ich will so gerne Schokolade.
Ich will Schokolade.
Aber wisst ihr, was ich jeden Tag esse? Ich esse jeden Tag Gemüse. Yes, yo. Mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist Gemüse wirklich niemals leer. Und Papa sagt, es die Gurken und Tomaten. Von mir aus dem Supermarkt, am liebsten aus dem Garten. Und dann erzählt mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt,
iss dein Gemüse auf, komm, sei ein liebes Kind.
Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied.
Obst und lecker Gemüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag.
Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland.
Et voilà, chocolade avec Dein Freund. Et maintenant, c'est l'heure des témoignages. Comme on vous l'a annoncé en début d'émission, cette émission est consacrée au voyage, à la mobilité des jeunes en Europe et dans le monde. Et pour cela, on a demandé à Victoria, qui est au téléphone actuellement avec nous. Bonjour Victoria.
Bonjour Anna.
Bonjour, merci d'être présente aujourd'hui. On sait que tu es une grande voyageuse et donc on voulait justement te poser quelques questions sur tes expériences de mobilité parce que je crois que tu as fait un échange universitaire, une période à l'étranger dans le cadre de tes études, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. J'ai fait un séjour Erasmus d'un semestre à Prague quand j'étais en troisième année d'études de licence.
D'accord. Et donc, tu peux nous dire un petit peu d'ailleurs d'où tu viens, qui es-tu, quels sont peut-être ton parcours pour nous faire comprendre un petit peu plus ton choix.
Oui, bien sûr. Alors moi, donc je viens de l'ouest de la France à la base, voilà, et actuellement je suis en service civique à la Maison des Européens de Lyon. Voilà, et j'ai fait des études de droit et affaires européennes à l'université de Nantes, puis un master de droit international général à Paris. Voilà, et donc dans le cadre de mes études de licence, je suis partie un semestre en Erasmus. Voilà.
D'accord, donc Prague, et tu as découvert cette ville. Quelle a été pour toi, en fait, comment s'est passée cette expérience ?
Alors, ça a été une expérience intéressante. Ça a été finalement assez court parce qu'un semestre, surtout un semestre universitaire, ça passe vite parce que c'est souvent finalement moins de 4 mois. Donc ça a été plutôt une bonne expérience. Ça a été une tas de découvertes parce que c'est partir loin et finalement assez longtemps quand même, parce que même si c'est court, ça reste une vraie immersion. Donc voilà, ça a été une expérience intéressante et enrichissante pour moi.
Et est-ce que ça a été difficile pour toi de partir, je veux dire, du point de vue, est-ce qu'il y a tu as dû passer des examens, monter des dossiers, comment ça s'est passé ?
Alors, moi, j'étais obligée de partir en Erasmus, en fait. C'est quelque chose qui a toujours existé dans mon paysage depuis que je suis en études supérieures. Je savais que j'allais partir en Erasmus à un moment donné ou un autre, parce que c'était obligatoire dans notre cursus. Donc, on a eu, de ce point de vue-là, des facilités administratives. On n'a pas eu, enfin, la phase de sélection, par exemple, était déjà faite, en fait. Mais c'est vrai que le dossier Erasmus, ça a été une sacrée procédure à faire. C'est quelque chose qui se prépare un an à l'avance. Donc ça se fait, mais c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Voilà. Après, c'est aussi un moment qui permet de se projeter, de se demander les cours qu'on va faire, etc.
Toi, tu as étudié voilà. en quelle langue, en fait, pendant que tu étais à Prague ?
En fait, comme on peut pas vraiment exiger des gens qui parlent tchèque en arrivant en République tchèque pour un Erasmus de si peu de temps, les cours sont tous en anglais, en fait. Voilà, avec une obligation d'avoir des cours de langue, donc en l'occurrence des cours de tchèque.
Donc tu as pris un petit peu de tchèque pendant ton séjour également.
Un petit peu.
D'accord. Et tu as dû aussi passer un examen de niveau de langue avant de partir ?
Alors oui, je sais plus, je crois que la plateforme s'appelle OLS, il me semble, quelque chose comme ça. C'est une plateforme en fait qui est mise en place par Erasmus+, voilà, et qui en gros évalue le niveau de langue avant de partir. Donc en l'occurrence c'était en anglais. Et elle l'évalue à la sortie du séjour Erasmus pour voir voilà la progression qu'il y a pu avoir, etc.
D'accord. Ben, écoute, merci bien beaucoup pour avoir partagé ton expérience. Si tu pouvais donner un conseil à ceux qui souhaiteraient partir et peut-être qui hésitent à le faire, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Alors, je pense que souvent une grande source d'hésitation dans le départ en Erasmus, c'est le coût du séjour et du départ, etc. Et je pense que, enfin, il faut se renseigner, c'est important, et se rendre compte qu'en fait, on est très aidé financièrement quand on part en Erasmus. Par exemple, moi qui n'étais pas boursière sur critères sociaux en France, j'ai bénéficié de bourses assez importantes qui couvraient largement mes billets aller-retour, etc. Et puis, on avait aussi une bourse de la fac et une bourse de la région. Et bien sûr, il y a aussi des aides du programme Erasmus, et on garde ces bourses sur critères sociaux. Donc ça permet vraiment finalement d'avoir un niveau de vie qui est équivalent à celui qu'on aurait en France. Et puis il y a un dernier élément, je pense, à prendre en compte, c'est aussi le pouvoir d'achat du pays dans lequel on va. C'est vrai que si on va en Europe du Nord, on aura un pouvoir d'achat qui sera plus faible que ce qu'on était en France, alors que si on va par exemple en République tchèque ou en Pologne, parce que c'est des pays dans lesquels j'ai eu l'occasion de passer, on a un pouvoir d'achat qui est plus important. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il ne faut pas trop se focaliser. On est aidé financièrement quand on part en Erasmus, donc il ne faut pas que ce soit un obstacle insurmontable. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Victoria. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Nous allons maintenant passer à Jade.
Oui, tout à fait. Jade, c'est une. Elle va nous présenter un petit peu son expérience de mobilité. Ce n'est pas dans le cadre du programme Erasmus, mais c'est dans le cadre de ses études. Où est-ce que vous avez passé cette première expérience de mobilité internationale, Jade ?
Alors, bonjour, Ardiana. Moi, je suis partie au Canada. Donc, je suis partie à l'international hors Europe. Donc, ce qui est une expérience différente de l'Erasmus, mais qui, sur beaucoup de points, est quand même très similaire. Très similaire pour beaucoup de raisons, parce qu'on part à l'étranger de la même manière. On est financé de la même manière.
Oui, vous êtes financé justement dans le cadre de cette mobilité. Si ce n'est pas par l'Europe, par qui est votre financier principal ?
Alors, moi, je ne suis pas boursière comme Victoria et j'ai quand même eu droit à la bourse qui s'appelle Aide à la mobilité internationale, qui est disponible pour tous les étudiants qui partent hors Europe et qui du coup n'ont pas le droit à la bourse Erasmus. Et cette bourse, c'est l'équivalent au niveau financier de la bourse Erasmus. Donc ça permet d'avoir une vraie aide financière qui est à hauteur, ça dépend des pays où on va, parce que comme Erasmus, ça dépend du niveau de vie du pays où on va. Mes amis qui par exemple partaient en Colombie avaient un petit peu moins que moi qui partais au Canada, mais ça peut s'équivaloir à environ une centaine d'euros par semaine. En tout cas pour moi, c'était environ ça. Donc chose qui permet quand même largement d'avoir, ça peut soit fonctionner pour le loyer, soit ça permet de faire les courses, mais dans tous les cas, ça aide énormément. Après, il faut savoir que pour le Canada, ils demandent un niveau minimum quand même un petit peu de sous de côté pour être sûr que si jamais on se retrouve là-bas, on n'est pas sans ressources comme ça du jour au lendemain. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, notamment au Québec. Moi, vu que je suis partie au Québec et que la France et le Québec sont très proches du fait de l'histoire, il y a la sécurité sociale quand on part là-bas qui avec des arrangements très facilement vous avez votre sécurité sociale.
Oui, ce sont des avantages non négligeables.
Exactement,
oui,
et ça pour l'installation sur place c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, surtout vu les coûts de santé en Amérique du Nord, ne pas payer c'est génial. Donc pour ça c'était vraiment top, il y a beaucoup de choses qui sont arrangées. Et pour ça, je sais qu'il y a aussi l'Office français franco-québécois de la jeunesse qui donne beaucoup d'aide si on veut partir en stage au Québec, si on veut partir aussi dans le milieu de l'hôtellerie, ils aident beaucoup. Donc dans tous les cas, partir au Canada est finalement beaucoup plus à la portée de ce que les gens pourraient penser du grand voyage impossible à faire. C'est vraiment faisable et surtout, moi, je le recommande vraiment.
Est-ce que c'est votre seule expérience à l'étranger ?
Alors, moi, j'ai eu la chance de partir aussi en stage. Je suis partie en stage dans le cadre de mes études à Budapest. Mais je sais que normalement, on m'interrogera sur le sujet pour l'émission d'août. Donc, je pourrais en parler plus à ce moment-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec peu de revenus, on peut quand même partir loin et avoir des expériences vraiment, vraiment très bien. Moi, je suis partie dans le cadre de la fac pour mon Master 1. Et ça a été une procédure qui n'était pas prévue, qui n'était pas obligatoire. Mais malgré ça, il y avait beaucoup d'aide et j'étais à la fac de Grenoble. Et s'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont à la fac de Grenoble, le service est super et il vous aidera vraiment pour partir.
Ah ben c'est parfait, très bien.
Merci beaucoup Jade pour ton témoignage. Et maintenant, une petite pause musicale avec un groupe franco-kosovar.
Juste un berceau, tu.
Ouais, c'est que des mots, mais c'est véridique, j'te parle.
je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra là-bas, yeah. Tu me diras que personne n'est parfait, on s'est juste loupé, ya ya ya.
Qu'on vient d'écouter, c'est une chanson chantée par la chanteuse kosovare Zurata Dora. Son prénom en français veut dire cadeau. Justement, elle nous a fait cadeau de son talent pour coopérer avec le grand chanteur rappeur marseillais Soul King. Et la chanson s'appelle Zemer, qui en albanais veut dire cœur.
Oh, c'est joli.
De quoi va-t-on parler maintenant, Anna ?
Alors, on continue notre voyage des mobilités et des voyages en Europe et dans le monde avec un nouveau programme dont on veut vous parler aujourd'hui. C'est le Corps européen de solidarité. Donc, un des programmes phares de l'Union européenne qui permet aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir faire une expérience de volontariat, de stage, trouver un emploi ou monter un projet en France ou en Europe. Donc, c'est un programme qui vraiment est ouvert à tous parce qu'il n'est sans prérequis de diplôme ou sans prérequis aussi de niveau de langue, qui permet comme ça à toute personne de faire une première expérience ou disons une nouvelle expérience plus ou moins longue à l'étranger. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons une invitée.
Justement, c'est Vlera du Kosovo. Elle est venue dans le cadre de ce programme européen de solidarité. Elle est en France depuis le mois de janvier, avec, entre autres, comme ambition d'apprendre le français. Mais étant donné la crise sanitaire, cette ambition a été mise un petit peu entre parenthèses. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle va s'exprimer en anglais. Bonjour, Vlera.
Bonjour, Diana.
Très contente, merci voilà, d'être avec nous dans notre émission pour nous parler de ton expérience dans le cadre de ce programme européen. Parle-nous un petit peu de ton parcours, Vlera, présente-toi et dis-nous un petit peu voilà, ton parcours scolaire, de vie au Kosovo.
My name is Vlera.
Je m'appelle Vlera.
I'm 23 years old.
J'ai 23 ans et je viens du Kosovo.
I'm a student.
Je suis étudiante et j'étudie l'anglais et je travaille en même temps dans un centre où je vends des habits. C'est la vie étudiante, quoi. Mais j'ai pris un an sabbatique pour venir ici.
Très bien. C'est ta première expérience à l'étranger, Vlera?
This is my first project and my first travel in Europe too. So it's very
C'est mon premier projet et la première fois que je voyage en Europe, donc je suis très contente de cela.
Donc c'est un très bon point de départ alors. Et quelle est justement de cette expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire de tes premiers mois en France? Comment ça s'est passé par rapport à tes activités, à ce que tu as accompli tout au cours de cette mission?
I'm a volunteer in the cultural project in MGC Port.
Je suis volontaire dans un projet culturel à la MGC de Port-et-Valence et je travaille aussi avec les enfants. On vit dans un appartement vraiment bien et en plus on n'a pas à payer le bus. Et tout est couvert, tous les fonds sont couverts par l'organisation. J'ai également de l'argent de poche. Durant ce projet, j'avais prévu donc d'apprendre le français, ce que j'ai commencé à faire. Et maintenant que le virus nous a un peu arrêtés, je continue à essayer d'apprendre par moi-même. Le virus du coronavirus a du coup changé un peu nos projets. On a commencé à travailler du coup à la maison. On a fait beaucoup de vidéos promotionnelles sur différentes activités qui sont faites par l'organisation. Et ce mois-ci, on va commencer à travailler avec les enfants. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être super sympa.
Eh bien, justement, je te souhaite une très bonne continuation, Vlera. Et voilà, des progrès dans l'apprentissage du français. Merci, Vlera.
Très bien. Merci, Vlera. Et maintenant, nous avons un invité spécial qui vient, qui nous appelle d'ailleurs. C'est bien cela, Jade ?
Exactement. C'est Lennart qui vient de Dresde, en Allemagne, et qui nous appelle pour nous parler de son service du Corps européen de solidarité, qui s'appelait auparavant le volontariat européen, qu'il a réalisé en France et qui lui a permis donc d'apprendre le français et de vivre cette expérience comme Vlera. Voilà, bonjour Lennart.
Bonjour à tous.
Bonjour. Vous venez du coup nous parler de ce volontariat, mais peut-être que d'abord tu pourrais nous dire un peu d'où tu viens et comment tu as été amené à faire ce volontariat européen en France.
Oui, en fait, je m'appelle Lennart et j'ai 20 ans. Je viens de Dresde, en Allemagne, et en ce moment, je fais des études franco-allemand. Et je peux faire ça à cause du volontariat parce que après mon baccalauréat, je voulais partir à l'étranger parce que c'est normal de faire ça en Allemagne après le bac. Et ouais, je décidais d'aller en France. Et oui, là-bas, je fais un volontariat de service volontaire européen de l'Erasmus+ pour un an. Et comme ça, j'ai pu apprendre le français et aussi commencer les études franco-allemand entre l'université de Bauhaus à Weimar, où je suis maintenant, et l'université Lyon 2 à Lyon à partir de l'été maintenant.
Super. Et du coup, ce volontariat européen, quelles missions tu réalisais? C'était des missions qui étaient en rapport avec tes études ou pas du tout? Et ça t'a fait découvrir des compétences nouvelles?
Oui, en fait, je voulais apprendre la langue et aussi m'engager dans les domaines sociaux et juste m'engager aussi pour l'Europe parce que ça me semble très, très important. Donc, je me suis postulé au projet différent en France et j'ai été accepté par un projet en Île-de-France dans le département Seine-Saint-Denis, dans un centre social. Et là-bas, j'étais un peu animateur, on va dire, avec pour les adolescents. J'étais responsable plus ou moins pour l'éducation non conventionnelle après l'école. Et aussi pour la mobilité européenne, pour un peu promouvoir aussi les volontariats là-bas en France.
Ok. Et est-ce que tu as eu des freins et des difficultés sur place ou les choses se sont passées plus facilement que ce que tu ne pensais?
Comme le département est un peu particulier, on va dire, il y avait des états sociaux un peu plus durs que j'étais. Que j'ai expérimenté avant. Aussi, j'ai fait pas mal des expériences très, très importantes pour moi parce que j'ai jamais vu une vie comme ça. Aussi, pour moi, c'était très, très important de faire connaître la vie en France, sociale, aussi en éducation. Et oui, il y avait aussi des expériences mauvaises, mais comme ça, je puis aussi apprendre des nouvelles choses, on va dire. C'était très enrichissant.
D'accord. Donc, si ça a été enrichissant, qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, aux gens qui souhaitent partir, se lancer et qui peut-être n'osent pas, que ce soit en Allemagne ou en France.
Ouais, je pense que parfois les gens en France, ils ont peut-être un peu peur d'aller à l'étranger. Et peut-être ce serait bien de aussi sortir de sa zone de confort un peu et d'aller un peu plus loin, parce que après, quand on fait cette expérience, je trouve on est plus riche d'expérience, on est vraiment plus ouvert d'esprit, on apprend notre langue, c'est très très enrichissant ça, et une autre culture. Donc il y a vraiment que des points positifs, je trouve, même s'il y a des temps peut-être pas faciles tout le temps.
D'accord. Et merci en tout cas, Lennart, pour ce témoignage très vrai et qui, j'espère, pourra donner envie à plein de personnes de partir, que ce soit en France ou en Allemagne. Merci à toi, Lennart. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Eh bien voilà, se clôture notre émission. On a eu des sacrés témoignages, hein, des expériences
très
de vie très intéressantes, en effet.
De toute façon, on va en avoir encore pour l'émission du mois prochain, au mois d'août. Ce sera encore une émission estivale avec des expériences, des témoignages sur la mobilité, des témoignages de jeunes sur leur expérience de mobilité en Europe ou ailleurs dans le monde.
Tout à fait.
D'ici là, nous vous donnons donc rendez-vous pour notre prochaine émission au mois d'août. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, Anna.
Au revoir,
Anna.
À
la prochaine émission.
Au revoir.
Au revoir.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.